Les nuits de France Culture. Les nuits de France Culture, une mémoire radiophonique.
La rose. Depuis toujours, les poètes l'ont chantée sur tous les modes, sous tous les cieux, dans toutes les langues. S'accrochent à ses pétales tout un tas de symboles, de mystères, de légendes et de romances. Elle est la fleur des fleurs, première toujours au hit-parade des fleuristes, présente sur cette terre, dit-on, depuis plusieurs dizaines de millions d'années. En 2000, pour « Sous le figuier le bonheur », Anis Clément rencontrait le pépiniériste André Ève et l'écrivain, pour l'occasion bien nommé, Catherine Larose. Grand spécialiste de la conservation des roses anciennes et lui-même grand obtenteur, c'est-à-dire créateur de roses, on doit à André Ève, disparu en 2015, la roseraie de la Poissonnière à Couture-sur-Loire, dans les jardins de la maison natale de Ronsard. On lui doit aussi la roseraie du grand jardin du Théâtre des Minuits à la Neuville-sur-Essonne, où sont réunies ses obtentions, les roses dont il fut le créateur. Elles s'appellent notamment Prestige de Bellegarde, Rose des Blés, Sophie, Suzy, Suzette et la première d'entre elles, Sylvie Vartan. Sous le figuier Le Bonheur, Matin au jardin, Les roses par Anis Clément.
Je me sens la naïveté de la pâquerette, dit Anne-Marie Koenig dans son livre Carnet d'un jardin. La perversité du liseron, la joie dansante du chèvrefeuille, la rage de l'ortie, l'arrogance du bouillon blanc, la tristesse de la glycine, l'obstination du topinambour, la douceur marine de l'ancolie, la sensualité de la rose qui se rengorge pour appeler la caresse. La rose est la même et une autre depuis toujours, toujours pareille et toujours différente. Un jour, j'ai vu un rosier en fleurs sur un arbre desséché. La vie, la mort s'entrelacent. C'est comme ça au jardin. Les feuilles mortes nourrissent les lys, les campanules, les citrouilles et les rosiers. André Ève, bonjour.
Bonjour.
Merci d'avoir quitté votre roseraie de Pithiviers pour nous rejoindre. Alors j'ai l'impression qu'il faut bien séparer les amoureux des roses. Il y a ceux qui aiment toutes les roses et ceux qui n'apprécient que les roses anciennes. Est-ce que c'est vrai ?
Il y a véritablement un retour à la rose ancienne depuis une vingtaine d'années. Des roses qui étaient complètement disparues et qui étaient là, présentes dans les roseraies du monde entier d'ailleurs. Et il a fallu les retrouver.
Mais justement, parlez-moi de ce partage, de cet amour pour les roses anciennes. Est-ce qu'il y a ceux qui n'aiment que les roses anciennes ? Est-ce que vous devez les rencontrer, vous ?
En général, on aime toutes les fleurs. On aime les roses modernes, on aime les roses anciennes. Mais il y a un petit plus dans toutes ces roses anciennes. Il y a souvent le parfum, la duplicature de la fleur, des fleurs tourmentées aux pétales enchevêtrés, aux pétales qui s'enroulent vers le cœur. Et là, on a quelque chose d'assez extraordinaire qui a été complètement disparu dans les roses modernes.
Voilà, c'est ça. Et bien, c'est ce petit plus que nous allons examiner ce matin avec vous et avec les roses anciennes, André Ève. Alors, comment êtes-vous devenu un grand spécialiste, puisque vous les avez réintroduits, comme vous venez de nous le dire ? Est-ce que vous avez été piqué par une rose en étant petit ?
Bien, c'est un peu cela. Rien n'était disposé pour moi pour les fleurs, car mes parents cultivaient des légumes. Et jusqu'à l'âge de 20 ans, j'ai cultivé des poireaux, des carottes et des pommes de terre. Mais c'est peut-être justement en retour des choses que je me suis passionné pour les fleurs, que tout jeune, j'ai créé un jardin, un petit jardin avec des légumes et des fleurs dedans. Ce qui n'était pas très, très courant à l'époque, car c'était l'époque de l'après-guerre des années 45. Et on pensait plus aux légumes qu'aux fleurs. Et puis dans ce jardin, je crois qu'il devait y avoir un très vieux rosier qui était là depuis la nuit des temps. J'ai dû me piquer un jour à ce rosier et j'ai été contaminé par les roses.
Il était comment ce rosier, André Ève ?
Bien, peut-être avec un peu d'imagination et en cherchant loin, je pense que c'était un rosier qu'on appelle les rosiers mousseux. Maintenant, nous appelons les Centifolia muscosa, des rosiers qui sont, dont la tige est recouverte d'une mousse verdâtre, parfumée, et c'est quelque chose de très agréable. Je crois que j'ai vraiment été piqué cette année-là.
Mais j'aime bien cette expression « rosier mousseux ». Ça veut dire quoi ?
C'est cette mousse, cette excroissance verdâtre qui est sur la tige, sur les pédoncules des roses, et ça lui donne un charme particulier.
Alors, quelle est la définition de la rose ancienne, Andréev ? Bon, une rose moderne, c'est une rose bien droite, c'est une rose parfaite, c'est une rose qui a été créée par l'homme. Mais la rose ancienne, elle est née il y a des millions d'années avec les plantes.
Elle est née avec l'origine de la terre. Ce sont les rosiers botaniques qui sont encore à l'état spontané dans leur pays d'origine. L'Extrême-Orient, la Chine, aussi l'Amérique du Nord et puis l'Europe. Il y a des rosiers botaniques dans les montagnes et dans les plaines d'Europe.
Alors la définition de la rose ancienne, c'est quoi ? C'est une rose issue d'un rosier botanique ?
Moi, je dirais que c'est d'abord la rose de nos grands-mères. Les roses qui sont apparues avant 1900, on dirait 1920. Les auteurs donnent 1920, mais il n'y a pas de date limite pour cela. Ce sont toutes ces roses qui sont apparues entre 1850 et 1900. Il y en a eu énormément à cette époque.
Alors, le rosier ancien ne fleurit qu'une fois, c'est-à-dire qu'il n'est pas remontant.
Beaucoup de ces variétés anciennes n'ont qu'une floraison, c'est vrai, mais une floraison vraiment spectaculaire à partir quelquefois de la fin avril. Il y a certaines variétés qui fleurissent très tôt et d'autres qui vont fleurir beaucoup plus tard, au début juillet, et tout cela donne un échelonnement de floraison.
Alors, une grande floraison qu'on appelle floribondie dans votre...
Floribondité. Ouais. La floribondité d'un rosier, c'est son temps de floraison et certaines variétés fleurissent très longtemps. Mais on a un effet beaucoup plus spectaculaire, bien souvent avec ces variétés non remontantes, qu'avec certaines variétés modernes qui vont fleurir tout l'été, mais pas en masse très importante.
Et il y a surtout un parfum très fort, hein, c'est ça ?
Et puis chacune de ces variétés, en fonction de ses familles, a un parfum.
Là où la rose s'entiche de noms à particules, l'églantier, pourtant beaucoup plus ancien, n'a droit qu'à un méchant surnom, rosier de chien. Quant à son fruit, le cynorhodon, cette grosse gousse si précieuse qu'elle termine sa vie en confiture, sirop, décoction ou eau de vie fortifiante, il s'appelle communément gratte-cul. D'autant plus vexant que la discrète églantine est d'extraction divine, puisqu'une goutte du sang d'Aphrodite la fit éclore. À l'époque où il y avait des dieux, les Grecs distillaient cette rose tragique pour en tirer un parfum. Ils attribuaient même des vertus médicinales au bédégare, espèce de gale chevelue provoquée par la piqûre du synips et formant sur l'églantier de petites excroissances. Au Moyen Âge, un mélange de miel et de pétales d'églantine parfumait les rince-doigts. Certes, les natures raffinées affectionnent parfums et confitures de pétales de rose, mais quand il s'agit de l'églantier, tout s'exploite. Les feuilles, les fleurs, les fruits et la racine réputées soigner les morsures de chien. À planter des églantiers plutôt que cultiver péniblement des rosiers, toute une pharmacopée se monte gentiment dans le jardin. En rendant hommage à ses vertus pharmaceutiques, j'essaie bassement de consoler mon églantier, lui que j'ai repoussé comme un mal propre au fond du jardin, humilié par l'élégance des roses. J'ai planté dernièrement 4 autres églantiers. Ainsi, ils peuvent se raconter leurs histoires de l'ancien temps et médire en toute impunité sur les belles coquettes.
Alors, cet églantier Rosa canina qu'on trouve dans toutes nos haies, Andréev, c'est un rosier botanique en fait.
C'est un rosier botanique originaire d'Europe. Il est très employé maintenant comme porte-greffe. C'est souvent la racine de la plupart des rosiers que l'on trouve actuellement.
Quelles sont les familles des roses anciennes, Andréev ?
Eh bien, tout remonte à la nuit des temps, comme nous le disions tout à l'heure, avec la rose gallique. La rose gallique qui nous vient du Moyen-Orient, d'Iran, de Perse. Et cette rose gallique est à l'origine de la plupart des variétés qui furent apportées après, qui furent trouvées ensuite. La rose gallique, la rose de Damas, le rosier alba sont des rosiers botaniques ou des croisements spontanés, car dans la nature, ces rosiers se rapprochaient et les insectes apportaient le pollen de l'une sur le pistil de l'autre, et tout ça créait des semi-spontanés qui furent sélectionnés et rapportés en Europe par les gens qui partaient en croisade à l'époque et qui ramenaient ces rosiers sur l'Europe.
Les roses de Damas sont les plus belles ?
Ce ne sont pas les plus belles, elles font partie de toute cette gamme, parce que dans les roses galliques, nous avons aussi la rose de Provins.
Alors c'est quoi la rose de Provins ?
Ben, la rose de Provins fut ramenée d'Iran et par les croisés et plantée sous les remparts de Provins. Et à cette époque, la ville de Provins, tout était axé sur la rose au niveau pharmaceutique. On parle aussi des confitures de rose maintenant, mais la rose était exploitée dans tous ses états.
Alors, en 1800, il y avait en France plus de 8000 variétés de Rosa gallica. Et aujourd'hui, André-Ève, il y en a combien ?
Beaucoup sont disparus. Beaucoup sont disparus. Ne sont restés que les meilleurs. On en retrouve beaucoup dans les roseraies actuelles, comme à l'Aigle-et-Rose, comme en Allemagne, à Sangerhausen. Tous ces rosiers-là figurent dans les roseraies de collection. Et nous les retrouvons. Mais il faut être très prudent quant à l'authenticité de ces variétés. Il y a eu aussi beaucoup de mélanges à certaines époques.
Donc on peut dire qu'il y a certains rosiers qui ont disparu et qu'on ne les retrouvera jamais ?
Beaucoup, on ne les retrouvera pas. Certaines variétés, d'ailleurs, étaient fragiles au gel. Et c'est peut-être le temps qui les a fait disparaître. Et surtout dans les rosiers-thés. Mais les rosiers-thés, c'est une autre famille.
Alors justement, à propos des rosiers-thés, moi je pense à la rose de Chine, André-Ève, parce que dans l'histoire de la rose et de son évolution, il y a un événement très très important, c'est l'introduction à la fin du XVIIIe siècle de ce rosier venant de Chine, qui va apporter des éléments importants.
On disait tout à l'heure que beaucoup étaient non remontants dans ces rosiers, mais l'apport des rosiers de Chine, des rosiers qui furent rapportés par les gens de la Compagnie des Indes, et ces rosiers ont été plantés à l'île Bourbon par exemple. Et les maisons étaient entourées de ces rosiers. Ils se sont croisés avec les roses qui existaient déjà, les roses galliques et les roses de Damas. Et là est née une nouvelle famille appelée les rosiers de l'île Bourbon, les rosiers bourboniana. Des rosiers qui refleurissent à l'automne. Quand on dit refloraison d'automne, ce sont des floraisons très brèves en général. Mais le plus remontant des remontants ne remonte bien que si on en prend beaucoup de soin.
Alors, ce qui vous obsède, vous, André-Ève, c'est l'authenticité. Comment prouver l'authenticité du rosier botanique ?
Oui, c'est notre gros problème pour remettre sur le marché des variétés que l'on retrouve un peu partout. Nous devons les comparer bien souvent avec le même rosier d'origine différente. On se procure des greffes dans différentes roseraies et c'est là que l'on peut comparer si la variété est bien authentique. Et puis retrouver également, on retrouve les catalogues de l'époque, les catalogues des obtenteurs de 1860, de 1870. Et c'est là qu'on s'aperçoit quelquefois qu'il y a des erreurs.
Quelle est la première chose que vous faites quand vous voyez des roses, Catherine ?
La première chose que je fais, je crois que c'est un petit peu comme tout le monde, j'approche mon nez et puis je les prends comme une coupe dans la paume de mes mains. Et puis je plonge mon nez dedans. Et c'est vrai, quand on se promène, on voit tous les gens ont ce réflexe. Et ce que j'aime, c'est la fleur qui s'approche du visage et puis les yeux qui se ferment. Et tout d'un coup, ce sourire qui se répand sur tout le visage des gens qui sentent une fleur, une rose. Et celle-ci ? Alors celle-ci, ce qui est ravissant, c'est sa couleur. Enfin, c'est la couleur de son bouton qui est un rose un petit peu framboise et qui, en s'ouvrant, décline toute la palette des roses, du plus clair au plus foncé. Ça, c'est une très jolie fleur. Alors moi, ce que j'aime, c'est ce mélange entre une fleur qui est très structurée et qui, en même temps, s'abandonne. Alors là, je parle pour ces fleurs de jardin, ces roses anciennes. Il est vrai que j'aime moins les roses altières ou très droites. Là, ce que j'aime, c'est ce côté abandonné et structuré. Ces pétales qui sont merveilleusement plantés, et puis en même temps cette ouverture comme une bouche qui s'offre au visage de ceux qui les contemplent. Pourquoi vous êtes-vous intéressée aux roses ? Ben, je crois qu'il y a quelque chose de fascinant dans ces fleurs, parce que pour moi elles rassemblent un petit peu tout ce que les fleurs ont à nous offrir, à la fois une forme qui est parfaite, Et puis ce parfum qu'on ne retrouve pas dans la nature d'une manière aussi idéale. J'ai de nombreux amis parfumeurs et c'est vrai, quand on évoque le parfum d'une rose, je pense que le parfum de la rose est parmi les plus riches dans la nature. Il peut avoir entre 200 et 400 composantes. Donc la rose est elle-même, en soi, est un parfum. Et ça, c'est quelque chose de tout à fait rare. Là, il y a, c'est vrai, quand on regarde une rose, il y a une sorte d'alchimie qui se fait entre la forme, le parfum, la couleur. Et on va vers certaines roses et puis d'autres ne nous attirent pas. Et c'est vrai qu'il y a un équilibre dans certaines fleurs qui fait qu'on a vraiment envie de se plonger dedans, de s'oublier. Cette rose, bon, elle a à la fois une durée de vie qui est limitée, et en même temps, la rose, c'est toutes les roses, et la rose, elle perdure, on est un petit peu comme dans les bras d'une rose, l'être humain dans les bras d'une rose, c'est-à-dire que à partir du moment où sa sensibilité s'est éveillée, son sens de l'esthétique, son désir de beau, je pense que la rose était là pour réveiller toutes ces sensations.
Est-ce que vous collectionnez les roses? C'est-à-dire, est-ce que vous êtes toujours en recherche de nouvelles roses?
Je ne les collectionne pas parce que je n'ai pas malheureusement l'endroit pour les accueillir où elles seraient vraiment dignes de s'épanouir. Mais il est vrai que dès que je parcours, traverse, rencontre ou visite un jardin, je vois les roses. Et moi, j'aime bien les roses qui ont un goût de beurre. Il y a certaines roses qui ont un petit goût de beurre, quelque chose d'un... Oui, c'est du beurre pour moi. C'est un petit goût de noisette, un petit peu gras mais très retenu, un petit peu citronné. Et ça, j'adore ce parfum.
Et elles sont comment ?
Elles ont des tonalités plutôt beige citronné.
Catherine Larose, vous avez eu un jardin d'enfance ?
Oui, j'ai un jardin d'enfance et ce jardin continue à vivre en moi comme tous ces lieux fondateurs. Et il y avait dans le jardin en fait deux types de roses. Il y avait des roses qui étaient prisonnières d'une bordure de buis. Les roses de ma grand-mère qu'en fait nous n'avions absolument pas le droit de toucher et d'atteindre. Alors on les regardait d'un petit peu loin et puis parfois quand ma grand-mère avait le dos tourné, on escaladait le buis, on allait les sentir, mais elles avaient beaucoup d'épines. Et puis il y avait des roses qui étaient beaucoup plus douces, qui étaient le long d'une allée qui menait au bout du jardin, une allée que souvent on empruntait à vélo. Et ce qui était joli dans ces roses, c'est qu'en fait elles se mariaient au parfum des pommes, et quand on avançait dans cette allée, il y avait ces roses qui avaient une couleur un peu champagne rosée. Je ne sais pas ce que c'est comme variété. C'est une variété très ancienne, qui était très mousseuse, très très opulente, et avec un parfum citronné. Et à côté, les pommes, des pommes très rouges, très joufflues. Et on avançait dans cette allée et on fermait les yeux, je me souviens. Et la première chose que je faisais en revenant chaque fois, chaque été dans le jardin, c'était d'aller dans cette allée pour sentir le parfum des roses et des pommes. Et c'était...
Est-ce que le parfum a changé avec les années et avec votre expérience?
Ce parfum n'a pas changé parce que chaque fois que je retourne dans ce lieu, je retrouve exactement les mêmes sensations. Et pour moi, c'est quelque chose d'extrêmement important parce que autant un jardin est quelque chose de réel et de concret, autant ce parfum ajoute une dimension différente à l'ensemble. C'est quelque chose comme une âme qui perdure malgré le passage des années. Et ça, c'est extrêmement émouvant.
C'est un jardin d'éternité.
C'est un jardin d'éternité, c'est un jardin qu'on a envie d'offrir aussi, de faire sentir à ses enfants pour qu'ils partagent un peu ses émotions premières. Et c'est quelque chose qui est à la base de mon existence et qui m'englobe. Voilà, je mourrais en imaginant, je crois, le parfum de cette rose.
À tel point que vous avez, Catherine, écrit une thèse sur les jardins.
J'ai écrit une thèse sur les jardins, une thèse de philosophie. Et je crois que effectivement, cette notion de jardin, ce lieu qui est à la fois un lieu naturel et humanisé, et c'est quelque chose que je n'ai pas fini d'épuiser et qui m'émerveille et que je continue à explorer.
Qu'est-ce que c'est un jardin?
Oh, je crois qu'un jardin, c'est vraiment une construction de l'âme. C'est un idéal, un imaginaire qui est incarné dans la nature. Et je trouve que c'est quelque chose de particulier et de magique.
André-Ève, il y a quelque chose d'extraordinaire dans votre métier, c'est que vous créez des roses.
C'est formidable de créer une rose. Au début, les rosiers se semaient des graines et récoltaient le produit, sélectionnaient les meilleurs. Maintenant, nous créons des roses avec une rose qui est prise comme père. Le père de la rose, c'est le pollen que l'on récolte sur des étamines. Et puis la maman de la rose, c'est la plante qui a été choisie pour ses qualités peut-être de donner facilement des graines. Et donc l'apport du pollen d'une rose sur le pistil d'une autre qui est prise comme maman vont donner des cynorrhodons, ces fruits rouges qu'on retrouve à l'automne, qui contiennent des petites graines que l'on va semer. Et nous obtiendrons l'année suivante des petits rosiers qui auront les caractères du père et de la mère.
Alors le père, il apporte quoi ?
Eh bien, théoriquement, le père apporte souvent, la plupart du temps, le caractère dominant, la couleur de la fleur, la duplicature de la fleur et le parfum. En général, c'est le père. Et la maman apporte la végétation de la plante, le feuillage, la résistance aux maladies. Et si le choix des parents a été bien fait, on doit obtenir des bons résultats. Mais il y a une grande part de hasard qui est toujours là, parce qu'on croise ensemble déjà des hybrides. Et on peut retrouver le caractère du grand-père ou de l'arrière-grand-père de la rose. Croiser ensemble deux roses rouges et obtenir une rose blanche. Ça peut arriver.
Et on met combien d'années pour créer une rose ?
Pour la créer, il suffit d'un été. Mais pour étudier le comportement et pouvoir mettre sur le marché une variété, il faut 8 à 10 ans. Si on veut étudier sérieusement une variété, voir comment elle se comporte à la multiplication, son emploi, sa végétation. Les rosiers grimpants sont quelquefois très longs à fleurir. Après les semis, on voit des grimpants qui vont fleurir 4 ans, 5 ans, qui feront leur première fleur 4 ans, 5 ans après. Alors vous voyez, c'est très très long. C'est pour ça que dans les concours de roses actuels, on voit quelquefois 100, 150 variétés de buissons et 4 ou 5 variétés de grimpants. Et les vrais grimpants, ce sont ceux qui doivent monter très haut, qui peuvent escalader les arbres. Et là, il y a encore beaucoup de choses à trouver.
Comment s'appelait votre première rose, André-Ève ?
Eh bien, ma première rose, je l'ai hybridée en 1960, enfin parmi les hybridations, et sélectionnée en 1968. Elle s'appelle Sylvie Vartan.
Pourquoi ? Parce que vous aimez Sylvie Vartan ?
Eh bien, parce qu'à l'époque, Sylvie Vartan était très... C'était ses débuts avec Johnny et c'était intéressant de lancer sa rose.
Elle est comment cette rose Sylvie Vartan ?
C'est un rosier polyanta. Il est rose.
C'est-à-dire, c'est
quoi ? Un rosier polyanta, c'est un rosier qui fleurit en bouquet, c'est-à-dire des inflorescences de plusieurs fleurs. Et c'est un rosier qui refleurit, qui n'arrête pas de fleurir pendant tout l'été. Il est considéré comme un des meilleurs polyanta roses. Et elle est parfumée en plus.
Et on la trouve encore, la rose Sylvie Vartan, sur le marché ?
Elle est encore sur le marché, dans la plupart des catalogues.
Et vous avez créé combien de roses, André-Ève ?
Eh bien, j'ai créé une vingtaine de roses. Au fil des années, je n'ai pas d'obligation commerciale à mettre sur le marché des roses chaque année. C'est quand une variété me plaît ou quand on a une demande intéressante de gens qui... Beaucoup de gens nous demandent de donner des noms à des roses. J'ai mes roses pour mes deux filles, Sophie et Sandrine. Une rose pour un vignoble qui s'appelle Grave de Verre. Vous voyez, on va dans des domaines très différents avec les roses.
Alors, ce qui est amusant, c'est les noms des roses. Moi, vous savez, j'ai acheté un rosier uniquement parce qu'il s'appelait Félicité Perpétue.
C'est un vieux rosier grimpant, un hybride de Sempervirens qui escalade les arbres. Oui, ça fait partie de ce qu'on appelle maintenant les rosiers lianes. Ce sont des rosiers qui étaient partout en Angleterre et qu'on ne trouvait pas en France. Et on a remis sur le circuit français toutes ces variétés de rosiers lianes, qui sont des rosiers extraordinaires, qui ne sont jamais malades, parce que j'oubliais de dire que je ne traite jamais mes rosiers. Je crois à l'équilibre naturel dans un jardin, avec des apports d'autres plantes qui vont créer l'équilibre.
Et j'imagine que vos cultures sont biologiques, André-Ève ?
Les cultures sont biologiques, mais surtout le jardin exposition.
Et alors, il y a une chose très très importante à dire aussi, c'est qu'une rose est considérée comme une création à part entière. C'est comme un livre, c'est comme une chanson, il y a des droits d'auteur.
Il y a des droits d'auteur depuis les années 1950, à l'après-guerre, quand Meillon a fait reconnaître la protection des végétaux.
L'amour, cette fleur, tout mon bonheur est venu d'une fleur. Ah, mes cheveux, que dans son parfum capiteux, aux yeux une étincelle, une rose aux cheveux, comme il me trouvait belle, dans son cœur amoureux, sur sa lèvre un sourire, sur la mienne un aveu, il me verra toujours au premier jour d'amour, une rose.
C'était Les Roses d'André-Ève et de Catherine Larose. Catherine Larose a écrit La philosophie des jardins et Une histoire sensuelle des jardins, édité chez Olivier Orban. Alors, quelques auteurs sur les roses anciennes. Charlotte Testu, hein, surtout André-Ève, hein, un livre paru chez Flammarion il y a quelques années. Et puis, on peut citer aussi Patricia Beuchère, peut-être.
Oui, Patricia Beuchère a parlé beaucoup des roses anciennes.
Et Peter Bills, aussi un Anglais, parce que les Anglais sont des amateurs de roses anciennes. Les textes, le texte d'Anne-Marie Koenig a été dit par Véronique Samouil. À la technique ce matin, il y avait Bertrand Durand. La réalisation toute cette semaine a été signée Angélique Thibault. Merci à Naïma Talbi et bonne journée à tous. C'était Sous le figuier le bonheur, Matin au jardin, cinquième et dernière partie, Les roses par Anis Clément, diffusée la première fois le 11 août 2000 sur France Culture. Réalisation Angélique Thibault. Vous pouvez télécharger et réécouter cette émission à la page des nuits sur le site franceculture.fr et sur l'application Radio France.